C'était au programme du candidat Macron. Il sera débattu fin septembre à l'Assemblée nationale. Le projet de loi bioéthique présenté cette semaine par la ministre Agnès Buzyn à l'issue d'une longue et large consultation doit fixer pour plusieurs années les nouvelles règles touchant aux conceptions de la vie, à la filiation, aux conditions d'intervention sur le vivant. Il prévoit notamment, c'est la mesure phare du texte, une PMA remboursée pour toutes les femmes. Il prévoit aussi pour les couples de femmes une déclaration anticipée de filiation pour leur futur enfant dont les conditions de procréation seront inscrites sur l'acte de naissance. Il prévoit encore un possible accès à ses origines pour tout enfant issu de PMA dès ses 18 ans. Un texte qui rend possible également la congélation des ovocytes pour fécondation ultérieure. Toutes mesures qui font évidemment polémique. Comment pourrait-il y avoir consensus sur des sujets mêlant l'éthique, la politique, la philosophie, la religion? Sachant aussi que le texte définitif reste à écrire, la commission spéciale chargée de sa rédaction a d'ailleurs été mise en place à l'Assemblée cet après-midi même. Vous en serez l'un des rapporteurs, Jean-François Eliaou, bonsoir.
Bonsoir.
Député de La République En Marche de l'Hérault. Avec nous également dans ce téléphone sonne Laurence Brunet, juriste et chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de Paris 1, la Sorbonne. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et puis Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Biotique, simple, adaptation ou révolution sociétale, c'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions, vos témoignages, bien sûr, au 01 45 24 7000 ou bien sur la boîte mail de l'émission.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Le premier à nous appeler ce soir, c'est Alain qui nous appelle de Ris-Orangis. Bonsoir à vous, Alain.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, je suis peut-être un des plus anciens donneurs de sperme que j'ai donné en 1974. J'avais 31 ans, donc je suis un monsieur âgé. Et les hommes et les femmes qui sont nés grâce à mes dons doivent avoir la quarantaine passée. Alors, je souhaite que... la loi soit les autorise à savoir que c'est moi, tout simplement, qui ai aidé leur papa, qui était infertile, à les concevoir. Voilà, en quelques mots, tout ce que j'ai à dire.
Voilà, donc vous êtes prêt à rencontrer éventuellement l'un des enfants qui serait né suite à votre don.
Voilà, oui, sans problème, en espérant qu'ils le savent. Le problème, c'est que les médecins entretenaient un secret qui, à mon avis, était très toxique, puisque un jour ou l'autre, le secret éclate et on se dit, mais il y a un truc là. Il faut faire des recherches, c'est un peu compliqué. En France, on n'est pas vraiment autorisé à en faire d'une manière efficace et scientifique, mais moi, je l'ai fait quand même. C'est-à-dire que j'ai fait des tests ADN aux États-Unis, pour que les personnes nées grâce à mes dons puissent me retrouver en faisant aussi des recherches à partir de l'ADN.
Mais ce n'est pas arrivé, donc.
Pas encore.
Merci à vous, Alain, pour ce témoignage.
C'est impressionnant donc, comme témoignage, je trouve.
Alors, Emmanuel Hirsch, allez-y, réagissez.
On a beaucoup entendu parler des gens, des jeunes qui ont maintenant 40 ans et qui souhaitaient connaître le père, par exemple. Là, on a eu rarement ce type de témoignage et je trouve qu'il est très significatif d'une évolution aussi culturelle dans les mentalités. Quand il parle de secret, c'était surtout de l'anonymat, c'est-à-dire on respectait l'anonymat, c'est une valeur de la bioéthique, également la gratuité. Mais je trouve très impressionnant que cette émission commence sur ce type de témoignage.
Alors l'anonymat sera préservé hein, au niveau du donneur.
Tout à fait, l'anonymat sera préservé.
Jean-François Eliaou.
Oui, l'anonymat sera préservé au niveau du donneur, avec la possibilité pour l'enfant né de don de se manifester à sa majorité et sur sa volonté pour avoir une communication des informations, et je précise deux choses très rapidement, des informations non identifiantes, mais aussi les informations identifiantes, alors, c'est-à-dire l'identité du donneur ou de la donneuse.
Alors là, c'est un point qui n'est pas tout à fait très clair.
Oui,
sont-elles identifiantes ou pas identifiantes?
Alors, a priori,
est-ce que le donneur sera obligé d'accepter la rencontre avec ses enfants?
Non, ça sera pas comme ça. C'est-à-dire que, a priori, en l'état actuel du projet de loi, tout donneur devra, a priori, je dis bien a priori, c'est avant les débats à l'Assemblée et le législateur,
voilà,
évidemment.
Donc ce n'est pas encore tranché.
Exactement, bien sûr. Puisque ça a été examiné hier en Conseil des ministres, et nous allons, nous, l'examiner à l'Assemblée nationale en début septembre, même fin août d'ailleurs. L'idée et la proposition est que tout donneur ou toute donneuse doit donner son nom, son adresse, etc. Et puis, en général également, ses antécédents médicaux. Bien. À partir de 18 ans, l'enfant né de don, encore faut-il qu'il le sache, bien entendu, l'enfant né de don pourra se manifester et avoir communication de ses données identifiantes et non identifiantes, et en particulier les antécédents médicaux. C'est la proposition qui est actuellement dans le projet de loi. Juste, je termine sur ce point, c'est que effectivement, notre auditeur a dit quelque chose qui était vrai, mais un petit peu erroné, c'est-à-dire que la loi jusqu'à présent préservait, et j'insiste sur ce terme, préserver la loi, pas les médecins, la loi préservait le secret de famille. C'est-à-dire que la loi et le législateur considéraient qu'il n'y avait pas à intervenir dans les affaires de la famille et que les familles étaient libres de dire à l'enfant s'il était né d'un don ou non. Et donc cette préservation du secret de famille était la loi et pas le médecin.
Sauf que la naissance par procréation sera inscrite désormais sur l'acte de naissance.
Pour les couples de femmes, uniquement, enfin en l'état du projet.
Oui. Mais, Rose Brunet, allez-y.
Oui, je voulais revenir sur la question. Bien sûr, si les choses vont changer, mais la loi ne sera pas rétroactive. C'est quand même important de le dire. Donc, effectivement, ça permettra pas à des donneurs et à des enfants nés et devenus adultes de se retrouver les uns les autres, sauf à ce que, puisque la loi ne sera pas rétroactive, sauf à ce que, justement, le gouvernement mette en place une plateforme éventuelle où, justement, pourrait s'inscrire de manière volontaire à ce moment-là, des donneurs qui auraient fait un test, et puis des adultes qui auraient fait des tests, et essayer de voir, comme on dit, s'ils matchent, c'est-à-dire si les choses concordent. Donc, il y a une possibilité, il y aurait une possibilité, une association comme Origine a fait des propositions en ce sens-là, qu'il y ait une solution sur la base du volontariat, pour que les uns et les autres puissent éventuellement se retrouver, même si la loi, pour l'instant, n'en parle pas. Il faut quand même préciser, voilà, qu'elle ne sera pas rétroactive, c'est très important de le dire.
Mais il est question, en revanche, éventuellement, de supprimer le stock existant de gamètes.
Voilà. Oui, je m'en parle.
Allez-y, allez-y.
Oui, c'est une des questions. Enfin, en tout cas, c'est un des points inquiétants du projet de loi, qui est que, au bout d'un certain temps, un an après l'entrée en vigueur de la loi, l'ensemble des stocks de gamètes et d'embryons seraient détruits, puisque ils ont été constitués et conservés sous l'empire du régime
précédent.
Voilà. Donc, on est un peu quand même étonnés. De voir que la seule solution qu'on ait trouvée, c'est de détruire des ressources extrêmement précieuses qui ont été données pour les oocytes avec quand même beaucoup de difficultés pour les femmes. Et donc, on est surpris de lire qu'il y aura des campagnes pour ensuite des campagnes de l'Agence de la biomédecine qui chapeaute ce domaine, des campagnes qui vont inciter les gens à donner alors qu'on viendra juste de détruire. Il me semble qu'il va y avoir un problème de communication. Et puis, ce problème-là va quand même mettre les services de procréation médicale assistée et les SECOS, les centres d'études de conservation du sperme, dans des situations très compliquées. Il va y avoir une pénurie qui s'annonce. Donc, je pense quand même qu'il y a un travail législatif.
Une pénurie qui existe déjà,
mais qui va s'aggraver. Donc là, je pense qu'il y a un travail législatif.
Jean-François Iliaou, je rappelle que vous serez l'un des rapporteurs de ce projet de loi.
Oui, alors c'est vrai que ce qui vient d'être dit, c'est un questionnement très très important. On peut effectivement être troublé par cette proposition qui est inscrite dans le projet de loi. D'autant qu'il y a quand même une liste d'attente importante, notamment pour les couples hétérosexuels infertiles, et qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi on détruit. Alors moi, il y a plusieurs choses. Première des choses, lorsque on donne, il y a un consentement éclairé. Et lorsque le donneur signe ce consentement éclairé, il le signe pour des couples infertiles en âge de procréer, vivants, etc., etc. Or là, c'est plus le cas si on élargit la PMA à toutes les femmes. Ça, c'est le premier point. On peut évidemment revenir et rappeler les donneurs. C'est un travail qu'il faudrait mener. Les SECOS ne sont pas forcément d'accord. Et la troisième chose, c'est que...
On pourrait les encourager.
Oui. Et la troisième chose, c'est qu'il y aurait une rupture d'égalité. Et ça, je pense que c'est un point important. Je ne suis pas forcément favorable, mais il y aurait une rupture d'égalité entre les enfants nés de dons, anciens régimes, qui ne pourraient pas avoir accès aux origines, et ceux nouveau régime qui pourrait avoir accès aux origines. Et donc, il y aurait
donc
une disparité.
Donc ça ne se fera pas, en un mot.
Il y a une rupture d'égalité.
Mais on pourrait très bien y remédier par, par un régime transitoire. Oui. On pourrait étendre le régime transitoire qui est là et prévu pour un an. Au bout d'un an, si finalement on n'a pas vidé les bonbonnes d'azote liquide, eh bien on jette tout. On pourrait imaginer un petit peu plus longtemps. Ça un an, deux ans. Voilà, on pourrait déjà... Enfin, il y a quand même plusieurs mesures qui pourraient... Palier.
Ça sera le travail du Parlement.
Voilà, exactement.
Emmanuel Hirsch, globalement, qu'est-ce que vous dites, vous, de... je rappelle que vous êtes professeur d'éthique médicale. Qu'est-ce que vous dites, vous, globalement, de ce projet de loi? Est-ce qu'il est plutôt bien balancé entre les progrès technologiques et le respect des valeurs traditionnelles?
D'abord, on peut constater, à travers le débat qu'on vient d'avoir, que c'est des sujets très sensibles, qu'il y a des valeurs qui sont engagées, des représentations, et qu'il faut être extrêmement prudent. Alors ce que je trouve, c'est que la démarche cette année a été très prudente. Il y a eu des états généraux, chacun a pu s'exprimer. Il y a eu des organismes qui se sont exprimés également. Toutes les grandes instances compétentes, conseils d'État et autres, se sont exprimés. Donc on n'a pas improvisé dans ce domaine. Et on peut être fier en France d'avoir une loi de bioéthique. C'est-à-dire qu'il y a une loi, que le législateur politise ces questions et qu'on ne laisse pas finalement, comme dans les premières années, première loi de bioéthique en 94, elle a été discutée par les spécialistes. Hein. C'était surtout les médecins et les scientifiques. Aujourd'hui, c'est une affaire de société. Ce qu'il va falloir voir, c'est maintenant qu'il va y avoir la discussion parlementaire, que du papier qu'on a sur la table aujourd'hui avec le projet de loi, il y aura peut-être un certain nombre de positions hostiles à tel et tel type d'avancée. Donc premier point, je trouve que c'est très très intéressant cette avancée-là, puisque la science avance et il faut accompagner ce progrès sans permettre de faire n'importe quoi. Donc les règles de l'éthique sont importantes, les valeurs de l'éthique, et dans ce texte, on nous parle de valeurs de la démocratie, on nous parle de solidarité, parce que là on parlait de don de sperme, mais aussi le don d'organes par exemple, il y a tout un ensemble de questions. Et puis un deuxième point, ce que je trouve intéressant dans l'ouverture de ce téléphone sonne, c'est qu'on ne soit pas focalisé sur l'assistance médicale à la procréation en
tant que telle. On va y venir.
Donc pour résumer, pour répondre à votre question Yves Decamp, je trouve qu'on est dans un contexte très favorable à des avancées, au pluralisme des idées, je pense que chacun peut s'exprimer, mais rien n'indique que dans les mois qui viennent, on va sortir de ce moment un peu privilégié avant les vacances, un moment véritablement d'hostilité face à des avancées que des gens n'accepteront pas.
Autre témoignage, c'est alors on reste toujours sur le même thème de ce don et de cet anonymat. Michel qui nous appelle de Paris. Bonsoir Michel.
Bonsoir. Oui, il y a quelques années, j'ai la chance d'avoir trois enfants. On m'a proposé de donner mon sperme au Sécos de Caen. Après une longue réflexion, j'ai accepté. Mais moi, j'ai accepté de donner mon sperme comme on donne son sang. C'est-à-dire, et pour moi, il n'y avait pas une grande différence. Et surtout, ce que je voulais, c'était rendre des gens heureux. Je voulais qu'il y ait des gens qui connaissent la même joie que moi j'ai eue en ayant trois enfants. Et en aucun cas, je voulais que ça se sache. Je voulais qu'on j'ai jamais dit à personne que j'avais donné mon sperme, à part à ma femme. J'en ai parlé aussi avec mes enfants quand ils sont devenus adolescents. Mais en aucun cas, j'ai voulu que ça se sache. Et si je savais que ça s'était su, ou que ça pouvait potentiellement se savoir, je n'aurais jamais fait ce geste.
Voilà, pas question pour vous de rencontrer un jour donc l'enfant né de votre don.
Pour moi, je suis rien pour eux. C'est-à-dire que c'est pas moi qui les élève, c'est pas moi qui les aide à grandir, c'est pas moi qui les ouvre sur le monde, c'est pas moi. Je leur ai donné c'est Salvador Dali dont le père avait mis dans une enveloppe et il avait dit tiens, je ne te dois rien. Ces enfants, je leur dois rien.
Oui, mais eux, de leur point de vue à eux. Il est important pour eux peut-être de savoir d'avoir un élément sur leurs origines.
Du point de vue de mes enfants à moi, de savoir qu'il y a un autre enfant qui se pointe à 18 ans et qui dit ben votre papa c'est aussi le mien. De mon point de vue à moi, où j'ai essayé de tout donner à mes enfants, de tout faire pour les porter vers l'âge adulte, et de me retrouver avec un enfant qui a 18 ans, qui n'est pas mon enfant parce que je l'ai pas élevé. Et ça bouscule sacrément la vie. Donc non, j'aurais pas voulu ce choix-là.
Ok, Michel,
j'avais juste
bien
une petite
entendu,
dire que je trouve que Michel, il dit quelque chose de fondamental. Si en 70, quand il y a eu les créations des Sécos, on avait eu la qualité du débat bioéthique qu'on a aujourd'hui, on ne serait pas en train de se poser ce type de questions. Et c'est vrai qu'au départ, et on ne va pas mettre en cause des médecins qui ont permis quand même des naissances par cette médiation, mais ce qui est important, c'est que leur modèle, c'est effectivement le don du sang. Donc la gratuité, l'anonymat. Et la question, j'allais dire anthropologique, c'est lorsqu'on donne du sperme, est-ce que c'est si indifférencié que cela ? Est-ce que ça n'a pas une vraie signification également dans la transmission, à la fois d'éléments physiques, mais également psychologiques ? Et quand les jeunes aujourd'hui qui s'expriment veulent aller aux sources, ils veulent savoir, mais d'où on vient ? C'est comme toutes ces questions sont des questions importantes. Et il faut voir que les avancées de la science doivent être accompagnées de ce type de réflexion. On a la chance aujourd'hui de pouvoir les mener. En 70,
d'où
c'était pas possible.
D'où on vient, qui était notre géniteur. Voilà. Et puis il y a aussi des questions de sécurité sanitaire.
C'est ça.
Jean-François Hilaire.
Je voudrais et l'intervention de Michel est extrêmement importante. Je voudrais prendre, alors on va bien entendu dépersonnaliser, c'est pas, il s'agit pas de Michel, mais il comprendra qu'on peut évoquer une situation. Admettons que le géniteur, qui ne veut pas donner d'informations, alors d'identité, ou non identifiante, est une maladie génétique, ou en tout cas forte composante génétique. À partir de ce moment-là, et dans ce sens-là, mais également dans l'autre sens, c'est-à-dire l'enfant qui est né du don, il semble totalement logique, compte tenu de l'avancée de la science, compte tenu de l'avancée de la médecine, et en particulier ce qu'on appelle la médecine personnalisée, qu'il y ait des indications, qu'il y ait des informations. Parce que quand un adulte va chez un médecin, la première des choses que lui pose le médecin, c'est pas par curiosité, quels sont vos antécédents ?
Vos antécédents, bien sûr.
L'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, et à partir de ce moment-là, on crée des différences entre les enfants qui savent et ceux qui ne savent pas.
Mais le médecin pourrait en être informé et pas forcément
oui,
l'enfant.
Oui, mais à condition que le donneur soit d'accord pour les donner. Mmh. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister et qui est a priori prévu dans la loi, c'est le suivi des donneurs. Parce qu'il n'y a pas de suivi des donneurs. Un donneur de sperme donne du sperme aux sécoses de Caen, dans l'exemple de Michel, mais il peut le donner d'ailleurs ailleurs, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Mais après avoir donné le sperme ou les ovocytes pour la femme, il disparaît de la circulation et il n'est pas tenu de faire état justement de son état de santé pour le bien de sa descendance, parce que quand même il a une responsabilité de descendance. Et de la même façon, l'enfant né du don pourrait être également une alerte, puisque s'il est malade et qu'il y a une maladie à forte composante génétique, il se doit quelque part de prévenir son géniteur. Donc vous voyez que la liaison entre géniteur et enfant né du don est quelque chose qu'il va falloir consacrer.
Jean-François Ledaou, c'est la notion de solidarité en fin de compte.
Mais absolument.
Et alors, le point de vue de la juriste.
Oui, je voudrais répondre. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée dans le témoignage vraiment très, voilà, très touchant, qui remue beaucoup de choses de Michel. C'est que il y a un mot quand même auquel il faut faire attention, parce que Michel dit, je voudrais pas que quelqu'un vienne me dire, je suis papa, tu es mon papa. Donc ça, juridiquement, c'est quand même très important d'expliquer que voilà, un géniteur et un père juridique, ça n'a rien à voir. Donc il faut pas confondre les places, et je crois que le droit a un rôle très important dans cette espèce de différenciation entre ce que le droit aujourd'hui appelle les origines et ce que le droit appelle un père légal.
Voilà. Mais Michel se situait pas du point de vue du droit.
Non, mais je pense que le droit peut rassurer quand même sur une confusion entre origine et filiation qui est fréquemment faite dans les médias, qui est reprise dans les journaux, et qui finalement, c'est vrai qu'on a tendance à dire le papa, vous l'avez dit vous-même Emmanuel Hirsch au début de cette émission. Donc je pense que déjà il faut faire cette distinction, c'est très important pour qu'on remette en place justement la question de l'histoire de la personne, l'histoire individuelle, pouvoir répondre à certaines questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est cette balance entre l'intérêt de l'enfant à savoir plus de choses, à pouvoir répondre à des questions qui se posent, tous ne se les posent pas, mais certains se les posent, et puis respecter la vie privée. Donc quand même ce qui est très important, c'est que peut-être Michel ne donnerait plus aujourd'hui, effectivement, mais il serait tout à fait informé des conséquences. Et c'est pour ça que la loi ne doit pas être rétroactive, ce que Michel a donné sous l'empire dans certaines règles. Et aujourd'hui, peut-être qu'il réfléchirait d'une autre manière, mais il n'y a pas d'obligation.
Alors, quid des risques génétiques ? C'est David, sur l'appli France Inter, qui nous demande que dire d'un risque de rencontre entre deux enfants issus d'un même don ?
Oui, il y a eu des cas qui ont été
probabilité est très mince,
on peut très bien, si on n'a pas accès aux données, épouser sa demi-sœur ou son demi-frère. Effectivement, il y a la possibilité, en tout cas potentielle, dont la probabilité est pas très très compliquée finalement à calculer en fonction de l'origine géographique. Parce que si y a des cas qui ont été illustrés largement, on peut se retrouver issu d'un don le donneur était ou les donneurs étaient du même sécos. Donc à partir de ce moment-là,
il faut quand même préciser, c'est important, que les pays qui ont évolué dans le sens qu'on propose aujourd'hui ont connu pendant quelques mois, quelques années, un affaiblissement du don, notamment de sperme, mais qu'ensuite ça s'est totalement stabilisé. Et que
c'était en 2004 en Suède. Je ne suis pas sûr que le système soit applicable en France.
Pas qu'en Suède, il y a aussi en Angleterre. Il y a eu des évolutions. Mais ce que je crois vraiment très intéressant par rapport à Michel, d'abord qu'il se pose la question, puisqu'on a eu deux débats, finalement deux approches différentes, et surtout qu'on se rende compte qu'effectivement il y a du sens dans ce qu'il a fait. Il y avait un sens profond, c'était aider un couple stérile, et il ne veut pas être responsable effectivement demain comme parent. Mais je trouve que, vous voyez, c'est des questions très philosophiques, très psychologiques, qui montrent toute la finesse qu'on doit mobiliser dans l'approche de ces questions.
Les dons du sperme se sont stabilisés, en revanche les PMA ont doublé, voire triplé en Grande-Bretagne, je crois.
Oui.
Hein, en France, c'est quoi? C'est 25 000 naissances?
Oui, en gros, oui.
Aujourd'hui, on dit que depuis...
3% des enfants.
On
est de PMA, mais avec et sans don.
Avec et sans don.
Il y a que 5% de PMA qui sont faites avec un don de gamètes.
Ça ne fait pas énormément de monde. On est à 80 000 personnes qui demandent un peu l'accès à l'origine, potentiellement. Mais vous voyez, un des débats qu'on a aujourd'hui, je l'entends de l'actualité, c'est le coût de l'ouverture, finalement, à travers le débat qu'on va peut-être avoir sur l'assistance médicale à la procréation. Le coût, finalement. Aujourd'hui, le coût global de l'assistance médicale à la procréation, puisque le don de sperme va le permettre, c'est 300 millions d'euros. Voilà, c'est une somme importante au service, finalement, d'un projet parental dont on ne peut pas contester, quelle que soit la personne qui le porte, qu'il ait une signification. Donc, c'est des éléments à prendre en compte dans notre approche de la législation.
La ministre annonce 10 à 15 millions de plus à l'issue de cette loi, et 2000 naissances en plus, ce qui paraît très peu.
Oui, par rapport à 24 000 naissances, c'est assez peu, par ce biais.
Mais bon.
Ce n'est pas une affaire de chiffres, c'est une affaire, à mon avis, humaine, de symbole.
C'est important que
le Parlement, semble-t-il, apporte des éclairages au nom des valeurs de la société.
Mais c'est important parce qu'une question qui revient souvent, c'est que si on assiste à une pénurie, comme on le disait tout à l'heure, Laurence Brunet, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les sécos s'achètent des gamètes à l'étranger, ce qui serait en contradiction avec le principe de gratuité du don?
Il y a un risque,
mais
ils ne le feront pas parce que
c'est interdit. Voilà. Tout ça, c'est tout simplement interdit par la loi. Donc,
le risque, c'est surtout le tourisme procréatif.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plutôt les personnes qui se déplacent, mais il n'y aura pas l'achat de gamètes, puisqu'on parle de gamètes, que ça soit du sperme, des spermatozoïdes ou des ovocytes, il n'y aura pas possibilité d'acheter à l'extérieur des frontières, parce que si le gynéco-obstétricien le fait et qu'on le montre, il est en faute.
Donc les gens continueront, comme aujourd'hui les couples de femmes le font, aller à l'étranger. Et ce qui va se passer, c'est que non seulement les couples de femmes vont y aller, mais les couples hétérosexuels, les femmes seules aussi,
parce qu'elles sont confrontées à la pénurie.
Voilà, parce que la pénurie va être très forte. Donc, et on sait très bien qu'au regard des règles européennes, il y a une obligation de la part de la France de rembourser des traitements qui sont légaux dans son pays, mais qui ne sont pas disponibles dans un temps raisonnable. Et on sait aujourd'hui, par exemple, pour le don d'ovocytes, la Sécurité sociale rembourse un forfait pour les femmes qui n'ont pas pu avoir un don d'ovocytes.
Qui coûte plus cher.
Alors ça, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà, les règles s'imbriquent et c'est quand même assez compliqué. Donc, s'il y a une pénurie, on va se retrouver dans une impasse à beaucoup de niveaux, quoi.
Autre témoignage, alors on est passé à la PMA, c'est Audrey qui nous en parle. Audrey, bonsoir, vous nous appelez de Lyon.
Oui, bonsoir. Je suis Audrey, femme hétérosexuelle en parcours AMP aujourd'hui. Je suis en parallèle parce que je savais pas comment m'occuper au milieu de tout ce désarroi, militante et bénévole du collectif BAMP. C'est un collectif qui soutient les patients en fait en AMP, qui les informe.
Alors assistance médicale à la procréation, AMP ou PMA.
C'est pour blog en fait, blog de l'AMP. Enfin, je vous le dis parce que ça peut intéresser des patients en AMP qui sont un petit peu démunis. Donc, mon appel, en fait, c'est déjà pour témoigner de ce qui est vécu en AMP. Parce qu'en fait, on entend plein de choses, beaucoup de gens ont d'avis, mais la PMA, en fait, c'est pas une gamète mâle, une gamète femelle et paf, un bébé. Mmh. Ce sont des parcours, mais du combattant, des parcours qui durent des années, des petites victoires, beaucoup de défaites, une vie sociale qui s'arrête, un travail qu'on n'arrive pas à honorer bien souvent, des traitements de dingue. Je voudrais juste partager que ce soit des couples de femmes, des femmes seules ou des couples hétérosexuels, vous ne verrez jamais qui que ce soit s'engager dans un parcours AMP à la légère. C'est une bascule dans une vie que quiconque ne connaît pas l'AMP le méconnaît, quoi.
Et donc ce que vous voulez nous dire, c'est que ce projet de loi, pour vous, il va dans le bon sens, il présente un danger.
Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, du fait que on intègre une infertilité sociétale, mais moi je suis complètement pour, hein. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que la fertilité pathologique et infertilité sociétale vont être noyés, et je vous cache pas que je crains quand même pour la prise en charge à 100% aujourd'hui par la Sécu des couples infertiles. Et l'autre rapport d'étonnement que j'ai, notamment là, il y a plusieurs personnes qui ont parlé du coût, qui est quand même si on est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, au début je voulais pas compter, je vous assure que maintenant je compte, parce que tout n'est pas pris en charge. Et je pense aux gens qui n'ont peut-être pas les moyens, en fait, de pouvoir se payer l'à côté, qui fait partie intégrante du parcours AMP. Et on parlait du coup, donc, et ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une FIV, donc une fécondation in vitro, on peut avoir, je sais pas, par exemple, aller 5 embryons qui sont transférables dans l'utérus de la femme. Ces 5 embryons, aujourd'hui, comme on force, entre guillemets, un petit peu la machine, on ne connaît absolument pas la viabilité de ces embryons. C'est-à-dire que des femmes, je veux juste finir, mais allez-y. C'est-à-dire que des femmes, en fait, qui ont déjà vécu le parcours du combattant pour peut-être obtenir un seul embryon, on lui transfère, alors que peut-être il a peut-être pas le bon nombre de chromosomes, sans parler d'aller chercher si il y a une trisomie 21 et tout ça. Je vous parle juste d'un nombre suffisant de chromosomes pour vivre. Et donc ces femmes qui ont vécu le parcours du combattant pour obtenir un embryon, ces embryons ne sont pas testés aujourd'hui. Donc on transfère tous les embryons qui existent dans le cadre d'une fécondation in vitro à la femme, et qui a un risque de fausse couche énorme. C'est-à-dire que par-dessus le parcours du combattant, on rajoute d'autres drames, parce qu'aujourd'hui en France n'est pas autorisé le diagnostic préimplantatoire, le diagnostic sur les embryons. Il n'est pas autorisé, alors peut-être pour des questions de génisme et tout ça, mais là je vous parle juste du confort de la patiente. Et ce qui me chagrine, c'est qu'aujourd'hui cette question, de ce que j'ai lu, n'est même pas abordée en fait. Elle n'existe pas.
Merci Audrey pour votre témoignage, Jean-François Iliaou.
Oui, moi je voudrais quand même rendre hommage à Audrey. Et c'est tout à fait important de souligner que nos concitoyens, les auditeurs de France Inter, mais nos concitoyens en général, sont devenus des sachants. Et lorsqu'on écoute Audrey, on a presque un cours de reproduction humaine, bah et de gynécologie.
C'est du vécu.
Oui, oui. Non mais attendez, c'est du vécu, mais on peut le vivre comme quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais on peut le vivre également en essayant de comprendre les mécanismes et de comprendre les différentes étapes de ce parcours du combattant. Alors plusieurs choses, moi je voudrais répondre sur plusieurs points. Le premier point, c'est que quand on va ouvrir, si on l'ouvre, mais a priori on va l'ouvrir, la PMA à toutes les femmes, y compris aux femmes seules et aux couples lesbiens, il ne s'agira pas de FIV systématiquement, mais il s'agira d'insémination dans un premier temps. Donc il n'y a pas la création, si je peux dire, d'un embryon in vitro. D'accord. Donc il y a, on prend le sperme, on l'insémine chez la femme et évidemment elle est stimulée. C'est pas simplement artisanal, mais voilà, il n'y a pas ce passage qu'elle décrit très bien de l'angoisse d'obtenir des embryons. C'est la première étape, et que deuxièmement ces embryons soient viables. Alors moi je la rassure, tous les embryons. Alors, je la rassure sur un point, c'est que effectivement, lorsqu'il y aura insémination, les spermatozoïdes qui seront inséminés seront examinés et on prendra que ceux qui sont les plus viables, ce qui n'est pas le cas lorsque il y a un acte charnel, si je peux dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les embryons actuellement sont la qualité, si je peux dire, ou la viabilité de ces embryons est examinée, appréciée de façon un peu grossière, mais sous microscope, on ne transporte pas n'importe quoi, bien entendu. Et puis après, évidemment, dans la loi, et je la rassure quelque peu, dans la loi, il y aura tout un chapitre sur la possibilité de recherche. Les recherches, non pas sur l'embryon, mais les recherches sur les phases précoces, qui sont responsables justement de cette grande probabilité de fausse couche, cette probabilité élevée de fausse couche.
Alors il y avait un deuxième aspect dans la question d'Audrey qui était très intéressant, c'est le problème de l'infertilité qui deviendrait en quelque sorte un phénomène social et non plus médical. C'est aussi ce que nous dit Patrice sur l'appli. Hein. On va rembourser la PMA pour toutes, ce qui pose un problème puisque il ne s'agit plus de traiter les conséquences d'une infertilité pathologique, mais du choix d'un mode de procréation.
Oui, les évolutions d'une société. On a eu aussi le mariage pour tous, hein, le 17 voilà. mai, non mais 2015. Une société, elle évolue.
2013.
La société évolue et il y a un point qui est à prendre en considération. J'ai écouté tout à l'heure Jean-François Eliaou dit la recherche sur l'embryon et surtout sur les cellules souches embryonnaires va être un peu favorisée. Oui. C'est vrai qu'il y avait un totem, on ne devait pas toucher à l'embryon. Et c'est vrai que du point de vue des avancées au niveau de la connaissance biomédicale, ça a été véritablement un problème qui s'est posé pour les équipes en France. Mais ce qui me paraît tout à fait important, et je veux juste aller dans le sens de ce que dit Jean-François Eliaou, c'est le savoir expertal aujourd'hui des personnes directement concernées. Et en quoi c'est déterminant dans l'arbitrage des politiques. Mais là, vous avez un conflit aujourd'hui entre les personnes effectivement qui ont une stérilité naturelle et celles qui disent avoir une stérilité sociale par rapport à des choix de vie qui sont les leurs. Et la vraie question, c'est est-ce que la société doit, en termes de justice, hein, puisque c'est le terme qui a été employé, répondre de cette obligation. Et moi, je réponds que la plupart des questions de bioéthique aujourd'hui se sont sociétalisées. Au départ, c'était des questions biomédicales. La science a permis des avancées et les gens se disent, mais au nom de quoi on nous refuserait ces avancées? On est dans une démocratie. Oui. C'est là où le débat est un débat extrêmement sensible, et c'est là où c'est un débat politique. C'est-à-dire, est-ce qu'en termes de valeurs de démocratie, de solidarité doivent être les mêmes ?
Politique et philosophique, Laurence Brunelli. Y a-t-il un droit à l'enfant ?
Il n'y a pas de droit à l'enfant, non. Il y en a dans nulle part, dans aucun texte, aucune convention. Mais on est la France et d'autres pays européens ont reconnu effectivement une place au couple de même sexe, mais à la famille homoparentale. Donc aujourd'hui, s'étonner que les choses aillent jusqu'au bout, c'est oublier qu'effectivement, la loi du mariage pour tous n'a pas simplement ouvert, la reconnaissance n'a pas ouvert simplement le mariage aux couples de même sexe, mais a permis l'adoption de l'enfant du conjoint. Et on sait que ces familles existent. On sait que les femmes, les couples de femmes sont allés depuis avant 2013 faire des enfants à l'étranger où la législation était plus libérale. Donc aujourd'hui, il s'agit juste, comme vous le dites, Emmanuel le dit très bien, de s'adapter à une évolution sociétale et pas simplement de l'anticiper. C'est juste de s'adapter à ce qu'elle est déjà. Ces familles existent déjà.
Voilà. Jean-François Eliaou, très rapidement, il y a beaucoup d'appels.
Deux points, très rapidement. L'AMP n'est pas le traitement curatif. Il ne traite pas l'infertilité. Il ne la traite pas.
Il substitue. Il y répond.
Voilà, c'est un traitement substitutif. Et à partir du moment où c'est un traitement substitutif, on peut se poser la question pourquoi on n'appliquerait pas ce traitement substitutif à d'autres cas d'infertilité qui ne soient pas des infertilités, je dirais, pathologiques, mais des infertilités sociétales. Ça, c'est le premier point. Pas le droit à l'enfant, ça n'existe pas, mais le désir d'enfant est quelque chose qui est recevable et compréhensible. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut le traiter politiquement.
Alors justement, un couple, quand on est un couple d'hommes, c'est Simon qui nous écrit « Je suis un homme seul et que je souhaite avoir un enfant et que je ne souhaite pas adopter, comment je fais ? N'y a-t-il pas dans cette loi une rupture d'égalité entre les hommes seuls et les femmes seules ?» Argument évidemment connu des gens qui s'opposent à ce projet de loi, hein, la PMA égale GPA.
Non, bah, non, la PMA n'égale pas GPA. C'est pas une pente glissante.
Il y a rupture d'égalité entre les hommes et les femmes.
Bah oui, mais comme le dit si bien le Conseil constitutionnel, quand il y a des situations différentes, il y a des règles différentes. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être un jour ça sera différent, c'est encore les femmes qui peuvent porter des enfants. Donc, on est bien d'accord que l'ouverture de l'homoparenté au couple de même sexe homme, au couple d'hommes, suppose de réfléchir, et je suis tout à fait ouverte à le faire, moi, en tout cas, sur la gestation pour autrui.
Bien sûr.
Je crois que...
qui n'est pas autorisé en France.
Qui n'est pas autorisé en France, mais la France, là, et c'est des règles juridiques qui sont intervenues, des règles... Les juges ont été confrontés de multiples fois à ces situations, et aujourd'hui, parce que la Cour européenne nous met l'épée au bas des reins, et je crois que c'est bien parce qu'elle nous incite à re-réfléchir aux configurations familiales, nous dit aujourd'hui qu'il faut donner une place aux deux parents d'intention. Il faut que le droit reconnaisse aujourd'hui les deux parents d'intention.
Mais regardez, Laurence, vous dites quelque chose de fondamental. Vous dites qu'on n'est pas dans la plante glissante. Beaucoup des gens qui écoutent France Inter en ce moment pensent que c'est précisément la plante glissante.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on permet tout. Il y a un état de fait, la science peut... Non mais, c'est le sentiment de beaucoup de personnes qui disent « mais ça va nous mener où ?» Qu'en est-il de nos valeurs d'humanité? Est-ce que un homme, une femme, c'est encore un sens? Toutes ces questions sont des questions profondes. Est-ce que, par exemple, le législateur, dans quelques années, sera capable de dire encore non à une pression sociale? On a, non mais c'est tout ce débat qu'il faut prendre en compte. Et l'acceptabilité de la loi tiendra à la qualité de la pédagogie sociale.
Dernier auditeur, c'est Roland, qui nous attend depuis un petit moment au téléphone. Roland, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Cher.
Exactement.
Allez-y.
Oui, bonjour, merci pour votre émission. Moi, je posais une question sur un thème qui n'est pas, en fait, dans la loi de bioéthique, qui est celui de l'expérimentation animale conduisant à des modifications génétiques sur les embryons animaux, et en particulier chez les primates, les macaques ou les babouins ou les marmosettes. Ça se fait dans des équipes de recherche japonaises ou chinoises depuis quelques années. Le but affiché étant de leur intégrer par transgenèse des gènes porteurs de maladies comme la maladie de Parkinson ou la maladie de Huntington. Et on peut se demander si c'est vraiment éthique de créer ainsi des lignées de primates juste pour les rendre malades et pour essayer de comprendre mieux la pathologie humaine pour des maladies qui de toute façon ne se développent que chez l'homme.
Bien compris le sens de votre question, Roland, mais bon, ce n'est pas dans le projet de loi, Emmanuel Hirsch. Les lignes rouges sont respectées dans ce projet de loi.
Je pense que c'est une question importante. La relation de l'homme à l'animal, c'est une vraie question aujourd'hui philosophique et de société. Mais vous avez noté que dans le projet de loi, on parle des chimères. C'est-à-dire qu'il y a une grande vigilance aujourd'hui sur toutes ces techniques.
Le mélange des...
Voilà, mais
des
aussi
gènes,
un point important, c'est aujourd'hui, on a la possibilité de modifier le génome. C'est toutes ces questions fondamentales de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Il y a quand même des interdits. Et qu'on donne pas le sentiment aux auditeurs que la loi, c'est l'ouverture ou l'adaptation d'une manière, j'allais dire, un peu palliative. Il y a des interdits, il y a des valeurs qui sont posées.
Toute expérimentation génétique reste interdite, Jean-François Eliaou.
Et puis un autre point important, c'est que la loi n'est pas définitive. Il y a révision de loi de bioéthique. Ouais. Donc le débat ne fait, j'allais dire, que se renouveler.
Que commencer.
Voilà, d'une certaine façon. C'est des éléments à prendre en compte. Moi, je serais très très attentif de voir les prises de position contradictoires, antagonistes, en tous les cas contradictoires par rapport à ce que le texte aujourd'hui, dans les prochains mois. Parce que ça sera quand même significatif de ce qu'est notre société dans sa diversité.
La reproduction sexuée ne sera pas remplacée par une fabrication de bébés en laboratoire.
C'est à nouveau
chez Aldo Huxley.
Voilà, on n'est pas dans le meilleur des mondes. Exactement, c'est absolument reprécisé dans la loi.
Donc revenons quand même sur l'effet domino, parce que c'est ça le plus important dans ce débat, dans ce qu'on entend, c'est que la PMA immanquablement reviendra à la GPA. Vous confirmez, Jean-François Eliaou, ce ne sera pas débattu, ce ne sera même pas débattu.
Ça ne sera pas débattu, et nous avons des outils législatifs et légistiques pour que tout amendement, alors il y aura peut-être le débat dans l'hémicycle, mais tout amendement portant sur ces mesures potentielles sera considéré comme ce qu'on appelle des cavaliers et donc pas pris en compte, bien entendu.
Et puis il y a un autre élément, on n'a pas le temps d'en débattre, mais c'est cette histoire d'acte de naissance. Pourquoi doit-il être différent pour les enfants qui ont deux mères, Laurence Brunet?
Là
aussi, discrimination,
Bien sûr.
Pour beaucoup, c'est stigmatisant.
C'est complètement stigmatisant. Et puis, d'abord, c'est inutile, puisque si un enfant né dans un couple de femmes, enfin, élevé, né et élevé dans un couple de femmes, bien sûr, il va savoir qu'il n'est pas issu biologiquement, spontanément, de ses deux mamans. Donc l'idée de le mettre sur l'acte de naissance n'a aucun sens. Donc ça stigmatise, ça confond une fois de plus ce que je disais tout à l'heure, les origines, le mode de conception et la filiation. Qui est responsable ? Ça, le droit doit s'y intéresser, ça doit être un acte public. Comment l'enfant a été fait, c'est pas du tout du ressort du droit
ni
du domaine public.
Mais pour la ministre, ça met la filiation par PMA au même niveau que la filiation biologique ou adoptive. C'est une procédure sécurisante.
Oui. C'est une procédure sécurisante, mais on pourrait très bien étendre le droit commun qui existe aujourd'hui pour les couples hétérosexuels qui ont recours aujourd'hui à un don de gamètes. Il y a un consentement qui est donné devant le notaire, et ensuite l'établissement de la filiation se fait. Donc on pourrait très bien imaginer la même chose pour des couples de femmes avec un consentement donné devant un officier ministériel, donc le notaire, qui serait ensuite, qui leur permettrait d'avoir recours à cette procréation médicale assistée, et ensuite quand l'enfant serait né, avec ce consentement, on ferait établir, soit par présomption, soit par reconnaissance, la filiation.
Donc, étendre c'est simplement très simple, l'existant.
Le droit commun. Le don. Voilà, pourquoi faire compliqué quand
ça,
on peut faire simple?
Ça peut encore changer, Jean-François Eliaou, dans la
Alors,
loi.
Alors, évidemment, ça a été une hypothèse.
Rapidement.
Très rapidement. C'est une hypothèse qui a été évoquée. C'est pas l'hypothèse qui a été retenue pour des raisons, je donne pas mon avis là. Mais j'explique pourquoi, hein, parce que il y a toujours quand même une méthodologie quand même. C'est pas choix comme ça tout d'un coup. Tout simplement parce que ça modifie considérablement l'architecture du code civil. Je suis d'accord. On est des législateurs, on peut modifier le code civil, bien entendu.
10 secondes.
Première chose. Et deuxième chose, on peut se poser la question pourquoi ce n'est réservé. Pourquoi ce n'est réservé qu'aux couples de femmes et non pas tous les enfants qui seraient nés de PMA? Parce que là encore, il y a le problème de l'accès aux origines. Et donc la loi continue à consacrer le secret de famille.
On y reviendra bien sûr, puisque tout cela sera débattu à l'Assemblée nationale à partir du 24 septembre. Merci beaucoup Jean-François Eliaou, député La République En Marche de l'Hérault, Laurence Brunet, juriste à Paris 1 la Sorbonne, Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale. Merci à vous. Merci à Loïc Frapsos et Clément Berman qui étaient ce soir à la technique. Il est 20h.